en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je ne parlerai pas des guerres religieuses ni des guerres au nom de la religion, mais je vous présenterai le rapport qu'entretient le brahmanisme au phénomène de la guerre, c'est-à-dire la position du brahmanisme face à la guerre, en entrecroisant la restitution des éléments de l'idéologie brahmanique avec une perspective d'ordre historique, s'il est vrai que c'est un trait caractéristique de la civilisation de l'Inde ancienne que l'écart qui n'a de cesse de s'y creuser entre d'une part l'approche nomothétique et idéale typique propre à l'indianité et à la pensée indienne, toujours en quête de normes idéales et de types purs, et d'autre part la réalité historique singulière avec ses tensions et ses contradictions telles qu'on peut la reconstituer à partir d'un faisceau de données de divers ordres. Commençons par une rapide esquisse historique. Vous connaissez tous les grandes phases, la phase védique, ensuite le brahmanisme ancien, puis plus tard l'hindouisme dans la continuité du second. Et l'un des traits caractéristiques de l'histoire de l'Inde, c'est cette oscillation pendulaire entre un extrême émiettement des policies, des entités politiques et des phases de relative unification impériale. Alors, le monde indien a toujours été plongé dans la guerre dès la phase védique la plus ancienne. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la guerre est considérée comme une activité normale et inéluctable en cette période archaïque. Elle paraît inscrite dans l'ordre des choses, tandis que la paix, elle, est au contraire regardée comme l'interruption temporaire de cette dernière, puisqu'elle demande à être ménagée et conclue. Et il n'y a pas qu'au plan de la réalité historique que la guerre est omniprésente avec ses luttes entre les différents clans guerriers. C'est aussi au plan du panthéon religieux, celui des hymnes védiques, dominé par la figure du dieu Indra, qui est un peu l'équivalent indien du dieu nordique Thor. Et les dieux, qui plus est, sont en perpétuel conflit avec leurs rivaux éternels, les Asuras, les antidieux ou titans. Cette lutte immémoriale et sempiternelle, largement relatée et commentée à l'époque post-védique dans les Brahmanas, s'inscrivant dans une perspective où elle trouve à s'intégrer dans un ordre cosmique. Ensuite, toute une évolution intervient, que je résume. Et durant la période védique tardive, celle des Brahmanas apparaît en relation avec certains grands sacrifices solennels, dont le sacrifice du cheval, l'Ashvamedha, ce fameux idéal du monarque Chakravartin, le monarque universel, celui qui littéralement fait tourner la roue, c'est-à-dire celui qui a vocation à régir l'orbis terrarum, à étendre son impérium sur l'ensemble des terres, s'il est vrai que l'objet du pouvoir royal est moins de conserver que d'étendre, et que le but idéal de tout souverain est la conquête de la terre entière, garantie de sa suprématie. Or, cette conquête peut s'opérer de deux manières. Le plus souvent, elle s'opère au moyen de la conquête territoriale nommée Dig Vijaya, ou conquête des Orients, et se met en place donc les prémices d'une idéologie qui va être prégnante, celle du monarque universel. Bien que les grands sacrifices soient progressivement tombés en désuétude, encore en 180 avant Jésus-Christ, un certain roi Pushyamitra accomplit deux cérémonies du sacrifice du cheval, comme l'atteste l'épigraphie. Mais cette conquête peut encore se présenter sous la forme de la conquête par supériorité morale ou vertueuse, ce qu'on appelle Dharma Vijaya, c'est-à-dire par une propagation de la loi, une conversion qui n'utilise la force que si la persuasion a échoué. Il est difficile d'ailleurs de savoir si cette dernière notion est une notion brahmanique antérieure au bouddhisme, elle est en tout cas attestée dans l'Arthashastra, notion que l'empereur Ashoka et le bouddhisme auraient ultérieurement annexée, ou bien à l'inverse, si c'est à Ashoka qu'on la doit. Puis ensuite, on voit se mettre en place de petites policies, des républiques aristocratiques à base tribale, dans toute l'Inde du Nord et du Nord-Ouest, ce qu'on appelle des janapadas, littéralement des territoires, des petites policies. Par la suite, durant la période pré-Maurya, vers les 5e, 4e siècles avant notre ère, nous assistons à une marche à l'unification impériale qui va aboutir donc à la mise en place de l'empire Maurya, avec notamment un phénomène, cette disparition de l'ancienne aristocratie à base tribale et la transition, comme l'a très bien montré M. Béchler, entre un régime hiérocratique aristocratique et un régime hiérocratique autocratique. Alors, il y a donc cet empire Maurya qui se met en place, dont l'empereur souscrit d'ailleurs à l'idéal du roi Chakravartine. Cet empire est un empire qui dispose d'un appareil militaire et d'un appareil de coercition sur une échelle jusque-là sans précédent. Alors, cet empire va néanmoins se déliter progressivement. Nous avons l'expédition d'Alexandre le Grand et nous disposons, grâce aux historiens d'Alexandre et à divers récits, de données relativement précises sur la composition des armées de l'époque. Second point, le défi représenté par le jainisme et le bouddhisme. Or, voici qu'apparurent le jainisme et le bouddhisme. Nul doute que l'apparition de ces deux religions prônant le refus de nuire, la fameuse Ahimsa, ne marque un tournant capital, dans la mesure où le bouddhisme allait récuser fondamentalement la tradition de l'Arthashastra et le recours à la coercition d'Anda. Son illustration historique la plus significative est la repentance de l'empereur Ashoka, qui, après la campagne du Kalinga, se convertit au bouddhisme en 262 avant notre ère. Et il va substituer donc à la conquête territoriale par la force l'idéal de ce Dharma Vijaya, qui signifiait à date ancienne une conquête en accord avec la droiture, c'est-à-dire la conquête d'autres territoires dont les rois étaient alors réinstallés dans un rôle de vassal, mais en conservant une autonomie régionale. Ashoka, le grand empereur, continue de partager l'idéal du monarque universel et il substitue donc ce Dharma Vijaya, cette conquête par supériorité morale ou par l'entremise de la vertu. Ashoka est peut-être le seul roi de l'Inde ancienne qui ait fini par rompre avec la tradition des guerres d'agression. Seulement voilà, comme l'empire Maurya allait disparaître, c'est surtout en Asie du Sud-Est que son modèle servant à inspirer et légitimer l'action politique aura une incidence. De ce changement de valeur induit par le bouddhisme témoigne peut-être l'invention à cette époque du jeu d'échecs, chatrang, venant de Chaturanga Bala, l'armée à quatre membres. Et il se pourrait que l'invention du jeu d'échecs entérine ce changement dans le système des valeurs. On pensa qu'il était préférable de jouer la guerre plutôt que de la faire, sans compter que la pratique de ce jeu aiguisait l'intelligence des princes et leur donnait sur leurs adversaires des avantages décisifs. Quoi qu'il en soit, le bouddhisme devait bientôt connaître une immense expansion sur tout le sous-continent indien, expansion que favorisa son adoption par les communautés commerçantes urbaines. Sa base sociale est en effet la bourgeoisie marchande urbaine, mais qui menaçait la suprématie et l'influence des brahmanes. Alors, qu'en est-il de la position du brahmanisme face à la guerre ? Elle se partage fondamentalement entre deux grandes orientations correspondant à deux grandes traditions, celle de l'Arthashastra, le traité de l'art de gouverner un état en vue de ou en fonction de l'intérêt, et d'autre part le Dharmashastra, le traité de la loi sacrée conforme à l'ordre naturel des choses. Ce sont deux traditions indépendantes, même s'il existe certains recoupements entre les matières traitées dans les deux traditions. Commençons par l'Arthashastra. Je serai rapide puisque dans un précédent colloque, l'éminent indianiste Charles Malamud a présenté le modèle de l'Arthashastra, dont la figure centrale est ce roi désireux de conquérir, Vijigishu, c'est une forme désidérative, un roi agresseur, impérialiste, qui cherche à maximiser sa puissance et qui va s'efforcer donc de conquérir ses voisins par la violence. L'art de gouverner prescrit donc une recherche systématique des moyens de la puissance politique de manière à procurer les richesses nécessaires aux conquêtes. Un point important qu'on ne souligne pas assez est qu'en Inde, on ne distingue pas, enfin, dans la réflexion de l'Arthashastra, entre guerre offensive et guerre défensive. Bon. L'idéologie indienne est bien celle du monarque universel qui se tient au centre de la roue cosmique, de l'orbis terrarum et du cercle des empires ou du cercle des États, puisqu'il y a toute une stratégie géopolitique concentrique originale dite du cercle des rois ou des États, Raja Mandala, au livre 6 de l'Arthashastra. Quant à l'art militaire, l'Arthashastra préconise le recours à des stratagèmes fourbes et perfides, Kutta Yuddha. Plusieurs livres leur sont consacrés à la fin de l'Arthashastra. Donc voilà, ça c'est la tradition cynique de l'art de gouverner un État en vue de l'intérêt, qui est celle de l'Arthashastra. En regard de la première tradition s'inscrit une tradition de nature religieuse et de part en part brahmanique, celle des dharmashastras. Et ces dharmashastras donc édictent un certain nombre de prescriptions normatives. Comprenons bien le système de référence propre à la civilisation indienne. Selon l'idéologie brahmanique, les brahmanes représentent la caste sacerdotale de la société traditionnelle. Ils incarnent la première fonction de l'idéologie tripartie indo-européenne, selon Georges Dumézil. Ils sont les officiants du sacrifice. Quant à la fonction royale, qui incarne la seconde fonction de l'idéologie tripartie indo-européenne, elle est légitimée par la mise de la force guerrière au service de l'ordre global du dharma qu'incarnent les prêtres brahmanes. Il y a donc un condominium, une interrelation, une complémentarité hiérarchisée des brahmanes et des kshatriyas. Et en vertu d'une telle coordination hiérarchique des fonctions, le pouvoir est dans l'absolu subordonné à la prêtrise, tandis que dans le fait, la prêtrise est soumise au pouvoir. Statut et pouvoir, et conséquemment autorité spirituelle ou souveraineté religieuse, augurium et pouvoir temporel, impérium, sont absolument distingués, cependant que le pouvoir des brahmanes et le pouvoir des kshatriyas, étroitement imbriqués l'un dans l'autre, sont également indispensables au bon ordre de la société brahmanique. Seulement, l'effet pervers de la disjonction de la fonction brahmanique et de la fonction royale est, en situant le pouvoir dans le domaine de la force et du fait, que le pouvoir en Inde est à prendre. L'on devient alors kshatriya quand on prend le pouvoir ou qu'on a pris le pouvoir. De là, la fragilité chronique des dynasties en Inde, la reconnaissance du brahman viendra alors conférer au roi d'aventure, autrement dit au titulaire effectif du pouvoir politique, au tenant effectif de la fonction royale, le statut de kshatriya, à condition qu'il se conforme au modèle qui lui est attribué, et il se trouvera toujours des brahmanes panégyristes, des vandana jana, assez prompts à légitimer ces rois d'aventure et assez complaisants pour composer en leur honneur un panégyrique royal en vers, prashasti, leur fabriquant une glorieuse généalogie mythique. Venons-en aux justifications de la guerre selon le brahmanisme. Alors, si la cause est juste et que les moyens adoptés sont loyaux, la guerre est réputée juste. La guerre juste, Dharma Yuddha, se trouve justifiée dans le Mahabharata, la Bhagavad Gita, qui est un épisode du Mahabharata, et dans les lois de Manu. Alors, dans la Bhagavad Gita, Arjuna défaille au seuil de la bataille et c'est alors que Krishna lui enjoint d'agir conformément à son devoir propre et en sa qualité de prince qui est en charge la sauvegarde du Loka Samgra, de l'intégrité du monde et de son bien-être. Il lui enjoint donc de combattre, mais sans s'attacher aux fruits des actes. Krishna exhorte donc Arjuna à se conduire en guerrier, mais en guerrier renonçant. Or, la guerre est d'autant plus justifiée qu'elle se voit assimilée à un sacrifice. Le Mahabharata décrit une guerre de dimension cosmique entre le bien et le mal, entre le dharma et l'adharma. Et son but est de rétablir l'ordre socio-cosmique. Et le trait de génie du Mahabharata est de procéder à la transmutation de la souillure inhérente à la violence guerrière en guerre-sacrifice, c'est-à-dire en sacrifice de la guerre, yuddha-yajna, sacrifice qui est propre aux guerriers. Et le Mahabharata va réutiliser, reformuler nombre de mythes védiques. Il réactive une ancienne conception védique selon laquelle le roi ennemi et son prêtre étaient regardés comme constituant les offrandes sacrificielles sur le champ de bataille. Le Mahabharata se présente comme la seule œuvre littéraire dans laquelle cette mise en équivalence de la guerre et du sacrifice sous la forme du sacrifice de la bataille, Rana Yajna, s'est trouvée aussi complètement élaborée et développée sur une telle échelle. Dès lors que le sacrifice et la guerre impliquent tous deux la violence, la guerre est représentée comme un sacrifice humain où les ennemis tués sont perçus comme des victimes sacrificielles et où bien plus la mort des guerriers tués est elle-même perçue comme constituant un sacrifice de soi, Atma Yajna, consenti et délibéré, comme si le sacrifice accomplissait la négation même de sa propre violence. Ainsi est-ce en opérant une mythification du sacrifice dans le sacrifice de la bataille que le Mahabharata a pu dès lors acquérir le statut de cinquième Veda. Le Mahabharata donne à connaître en fait un jeu de la violence et de la non-violence. Bon. La guerre fratricide du Mahabharata forme le contexte général dans lequel la classe dirigeante des Kshatriyas s'efforce de résoudre son propre conflit de conscience, en même temps qu'elle donne à connaître une tension entre les principes de l'art de gouverner, Danda Niti, inspiré de l'Arthashastra, et que Bhishma, le chef de famille, expose à Yudhishthira, l'aîné des frères Pandava, et d'autre part les principes universels du dharma en tant que fondement de la notion de roi juste, dharma raja, principes qui, eux, enveloppent la complète subordination de la politique à l'éthique. Alors, les textes les plus intéressants, ce sont les portions didactiques du Mahabharata, et en particulier plusieurs sections du livre 12, Shantiparvan, la section de la pacification. Alors, chacun des protagonistes, Arjuna, Bhishma et Yudhishthira, défendent leur propre conception. Il y a une justification de la guerre en tant qu'exercice de la violence collective qui invoque le fameux principe cher à l'Arthashastra, mais qu'on trouve aussi dans les lois de Manu, suivant lequel la violence légitime est justifiée par le Matsya Nyaya, le principe ou la loi des poissons, c'est-à-dire par l'entremangerie universelle. La violence est nécessaire, elle est juste, et d'ailleurs la non-violence absolue est à la fois impossible et suicidaire, de sorte qu'une telle juste violence, sadhu imsa, exercée par devoir, se révèle être en réalité une espèce de non-violence, ahimsa bien comprise. Bhishma, lui, de son côté, expose une conception beaucoup plus cynique du pouvoir contre laquelle Yudhishthira réagit. On aperçoit une tension clairement perçue mais non résolue entre les principes de l'art de gouverner inspiré de l'Arthashastra, surtout si l'on se souvient qu'il y a dans les écoles dont l'Arthashastra fait la synthèse, deux écoles, celle de Brihaspati et celle d'Ushanas, qui sont d'orientation radicale. L'une est matérialiste et l'autre est proprement séculière. Et d'autre part, les principes universels du dharma incarnés par Yudhishthira. Or, il se pourrait qu'à l'arrière-plan de cette tension bien réelle se dessine en filigrane une autre opposition, celle qui oppose, s'il est permis de la reformuler dans le langage moderne, la position qui tient la guerre pour un jeu à somme nulle, le territoire perdu par un État constitue nécessairement la conquête du vainqueur, et la position selon laquelle la guerre est une ultra-solution qui conduit inéluctablement au désastre total, tant et si bien qu'il vaut mieux tout compte fait s'engager dans un jeu à somme non nulle, c'est-à-dire un jeu dans lequel la perte d'un joueur n'est pas nécessairement le gain de l'autre, autrement dit un jeu exigeant des concessions mutuelles et tel que tous les joueurs puissent trouver des avantages qu'aucun d'eux n'aurait obtenus individuellement. Et en effet, la grande guerre du Mahabharata ne porte-t-elle pas en elle la fin d'un monde, elle qui aboutit à la disparition de la classe des princes et des guerriers, les kshatriyas, au profit de la classe fonctionnelle des marchands, les vaishyas. Alors, quelques mots sur la régulation de la guerre, les usages de la guerre. Il y a la formulation des usages licites de la guerre à la manière d'un jus in bello, Il faut que les combattants de la même catégorie s'affrontent. On ne doit pas tuer des adversaires qui ont perdu leurs armes, etc. Bon. Dans quelle mesure ces règles ont-elles été effectivement respectées? Or, ce qui ressort des sources, les récits des Grecs, l'épopée et les inscriptions variées, c'est que ces règles étaient rarement appliquées au combat. Dans le Mahabharata, au fur et à mesure que la bataille progresse, nous voyons ces règles être enfreintes et bafouées en toute impunité dans la pratique. Si la première règle imposant de se battre avec un adversaire de la même catégorie est ordinairement respectée, la seconde, qui interdit de tuer divers types d'hommes ou de personnel, est plus souvent enfreinte. Sur les 966 combats que comporte la bataille du Kurukshetra, 155 conducteurs de chars, les suttas, sont tués en duel, soit 16%. Reste qu'il n'est pas impossible que ces règles aient été observées jusqu'à un certain point dans les combats que se livraient les roitelets de l'Inde du Nord. Mégasthène et Arien, les historiens rapportent qu'alors que la bataille faisait rage à proximité, les paysans n'ont continué pas moins à vaquer en toute tranquillité à leurs tâches agricoles. Et plus tard, le pèlerin bouddhique chinois Yuan Tsang, 602-664, eut la surprise de faire la même observation durant son séjour en Inde. Dernier point, la culture de la belligérance et la dynamique de la guerre à l'œuvre au sein du monde médiéval. Une mutation va intervenir avec l'effondrement de l'empire centralisé des Gupta vers 550 et plus particulièrement avec la mort de l'empereur Arsha en 647. Cette mutation globale va correspondre au développement d'une culture de la belligérance, une culture de ce qu'il convient de nommer de l'opportunisme militaire ou de l'aventurisme militaire. L'époque tout entière est caractérisée d'une part par le morcellement des policiers, autrement dit par la fragmentation du pouvoir entre un grand nombre d'unités de taille variable, consécutivement aux guerres dynastiques incessantes, et d'autre part par la féodalisation du pouvoir. Je dis féodalisation entre guillemets car il n'y a peut-être pas, on ne trouve pas en Inde de féodalité tout à fait comparable à la féodalité occidentale. Féodalisation du pouvoir, l'Inde va offrir de nouveau l'image d'une mosaïque de petits États rivaux dont chacun prétend à l'hégémonie. Dans le chaudron de la période post-Gupta, constantes sont la rivalité et la guerre entre les royaumes en Inde du Nord et en Inde du Centre. Or, cette culture de l'aventurisme politique et de l'opportunisme militaire, si elle constitue le puissant ressort d'une telle évolution, est elle-même la résultante de nombreux facteurs. Et la mutation globale qu'elle introduit s'apprécie par contraste avec ce qui avait constitué l'intention directrice de l'Arthashastra, d'une part, et du Shantiparvan et des lois de Manu, de l'autre. Bon. Il y a différents facteurs. Il y a un changement de valeur qui induit un changement dans les motivations et qui va générer un nouvel éthos qui intervient, comme l'attestent des dizaines de panégyriques royaux conservés par l'épigraphie et la littérature. S'agissant de l'apothéose de la royauté, les monarques vivants se voient accorder le même niveau de panégyrie que celui jusque-là réservé aux incarnations divines. Les seigneurs de la guerre sont présentés comme des extensions des divinités, et ce, alors même que perdure l'idéologie du monarque universel. Il y a un autre trait, c'est une érotisation divine de la royauté. La belligérance se trouve reformulée dans le langage des saveurs esthétiques, les rasas, c'est-à-dire en l'occurrence dans le langage du sentiment érotique, le shringara rasa, et du sentiment héroïque, vira rasa, parfois conjugué au sentiment furieux, le raudra rasa, qui sont ceux-là même dévolus à la divinité. La guerre se drape désormais dans le langage du divertissement et des jeux, à l'image des jeux amoureux entre amants. La guerre consiste alors dans la séduction et la conquête de la déesse fortune, Shri, pour l'arracher à la cité de l'ennemi et la ramener dans le harem du conquérant. La cité conquise se voit assimilée à une femme timide et pudique et le seigneur de la guerre devient son amant passionné. Leurs amours sont dépeintes comme les jeux amoureux auxquels s'adonnent les courtisans oisifs et non pas comme le sanglant massacre d'une population terrifiée. Voici que la guerre est systématiquement assimilée à une activité ludique, à un jeu frivole. La guerre, c'est le noble divertissement de l'élite politico-guerrière, mais c'est encore le jeu divin des dieux. C'est d'ailleurs en se référant à une telle coalescence de la belligérance, de l'érotique et du sacré, que l'historien néerlandais Johan Huizinga, qui avait eu au départ une formation d'indianisme, ce qu'on ignore souvent, élabora sa conception de l'homme en tant qu'homo ludens dans son célèbre essai de 1938. Tous ces traits conjugués sont au principe d'un nouvel éthos, et tout ceci a permis aux rois de l'Inde ancienne de conférer à leur propre action le sens d'une action se réclamant de l'élection divine ou se prétendant divinement inspirée et partant exonérée des conséquences sérieuses qui eussent pu venir mitiger et entacher sa nature de jeu frivole. Seulement, voilà, le jeu peut-il jamais être une justification suffisante de la guerre ? Là où Aristote s'attachait à discerner les causes d'instabilité affectant un régime politique, Kautilya, dans l'Arthashastra, examinant les diverses faiblesses qui peuvent affecter les 7 éléments constitutifs d'un royaume, soulignait, s'il est vrai que le roi est l'élément le plus important, que la pire calamité à cet égard est un roi faible, lâche, veule, adonné au jeu et aux femmes. Et on en a un témoignage fort instructif dans le Katasaritsagara, l'océan des rivières de Konde de Somadeva, fin du XIe siècle, gigantesque et complexe cycle narratif qui est l'une de nos plus grandes sources de renseignements sur la vie de l'Inde médiévale. On y rencontre de nombreuses histoires où la fantaisie des monarques et les vices royaux, en particulier l'amour des femmes, jouent un rôle important. Dernier point, la féodalisation du pouvoir et l'étagement des niveaux de pouvoir. Voici que les grandes entités politiques ou policiers instaurent désormais des relations avec des vassaux, Samanta, Mandalesha, qui gouvernent des états tampons s'interposant entre le puissant grand roi des rois ou le grand seigneur, Paramabhataraka, de l'état suzerain et ses ennemis réels. C'est dire qu'une multiplicité de tenants de la fonction royale participe aux différentes échelles de pouvoir, royauté, seigneurie d'envergure régionale, seigneurie d'importance locale, chefferie, un jeu dont la logique est plus social, maintenir son statut, tenir son rang, que territorial, et où l'ordre supérieur des valeurs n'est réaffirmé qu'à travers des guerres incessantes. S'instaure alors un jeu de conflits, d'alliances et d'allégeances territoriales articulées sur les relations de suzerain à vassal et sur les relations de parenté et de mariage de la caste royale. La dynamique de la guerre n'opposait pas les royaumes comme des blocs sur le mode des guerres nationales, entre guillemets, de l'Europe post-napoléonienne, mais des rois et des seigneurs en fonction des divers niveaux de segmentation propre à la caste royale. Du coup, la notion de frontière territoriale ou du moins de limite territoriale d'un royaume tendait à s'estomper tant et si bien que la carte politique de l'ensemble n'a pu qu'être à toutes les échelles un assemblage changeant de domaines inextricablement enchevêtrés. On aperçoit le degré de complexité que ces relations peuvent engendrer dans les équilibres mouvants entre les royaumes, dès lors qu'alliances et hostilités opposaient et rassemblaient tour à tour rois et seigneurs d'un même royaume ou de royaumes différents, en un jeu mouvant où se font et se défont les alliances. Il arrive d'ailleurs qu'une policie doive se battre sur deux fronts à la fois, dès lors qu'une policie puissante n'est plus en contact direct avec des ennemis, comme c'était le cas dans le schéma classique de l'Arthashastra, mais s'entoure d'un cercle d'États vassaux, Samanta Chakra, Samanta Mandala, ce sont les princes vassaux qui sont exposés à de perpétuels conflits de basse intensité, à des escarmouches à leurs frontières, lors même qu'ils se voient concéder par leur suzerain la licence de s'engager dans des conflits de basse intensité. Ce qui a permis à des roitelets militaires ou à des feudataires rebelles, souvent de basse extraction, ce sont souvent des vaishyas, des marchands, de s'élever dans la hiérarchie politico-militaire. Telle fut cette culture de la belligérance, de l'aventurisme et de l'opportunisme militaire, jointe à la segmentation des relations de pouvoir, que la conjugaison même de ces deux facteurs eut pour incidence de précipiter, comme l'a magistralement montré M. Béchler, la constitution d'un système polypolaire et allant de pair avec le morcellement des policiers d'aggraver son instabilité. Alors, il y a un turnover, une rotation extrêmement rapide des dynasties à cette époque. Mais il y a plus grave. Alors que le modèle de l'Arthashastra corroborait la fameuse formule de Clausewitz selon laquelle la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens, voici que cette dernière formule se trouve démentie par la nouvelle culture de l'aventurisme militaire et par la nouvelle configuration polypolaire conjuguée. Au contraire, c'est par la guerre échappant à tout contrôle que se trouvent ruiner les fins mêmes du politique, prévenir l'entremangerie universelle, selon Cautilia, on s'en souvient, et que se voient subverties les institutions politiques y afférentes. Alors, à partir de cette époque, on a des preuves archéologiques des dégâts collatéraux sur une très large échelle, subis par les populations non combattantes. Et on a la preuve que les stratagèmes fourbes et perfides, Kuttayuda, qui étaient préconisés dans l'Arthashastra, ont été mis en œuvre sur une très grande échelle à cette époque. Un tel état de fait devait perdurer plusieurs siècles. Au XVIe siècle, l'inconstance des liens de dépendance, les guerres limitées mais incessantes que se livraient les rois rivaux, empêchent d'ailleurs de fixer avec exactitude la carte politique de l'Inde à une date précise. Par exemple, en cernant les limites territoriales des États étagés du nord au sud, le long des côtes occidentales de l'Inde, ce qui ne laissa pas de déconcerter les colonisateurs portugais installés à Goa. Pour la noblesse guerrière des Rajputs, qui a été étudiée par Henri Stern, la guerre devait constituer longtemps encore à la fois un style et un mode de vie, les valeurs héroïques fixant un idéal qui leur était spécifique. De leur fidélité à cet idéal dépendait le maintien de leur statut. C'est ainsi que les états princiers du Rajputana ou le Rajasthan ont représenté dans leur ensemble le témoin d'un mode d'organisation politique qui avait jadis dominé toute l'Inde du Nord et du Centre avant de constituer un pilier de l'Empire moghol. Reste qu'aucune des entités politiques de l'époque, telles que celles auxquelles les Portugais eurent affaire au XVIe siècle, n'est comparable aux monarchies européennes de l'époque. Et le fait est que durant la période coloniale anglaise, jusqu'en 1947, il subsistait encore 562 États princiers, les Native States. Je conclus. La spiritualité indienne ainsi que l'âme indienne dans ses profondeurs ont certes toujours été habitées par l'idéal sublime de parvenir à la victoire sans la violence, c'est-à-dire par l'idéal de parvenir à la victoire sans avoir à exercer de violence, comme en témoigne d'ailleurs la fameuse devise officielle de l'Inde, Satyameva Jayate, devise empruntée à la Mundaka Upanishad. C'est la vérité même qui toujours conquiert et non l'erreur. Mais rien ne serait plus erroné que de croire que l'Inde ancienne est le continent de la non-violence. Assurément, la méthode de la non-violence et de la non-résistance au mal prônée par Gandhi aux fins de libérer l'Inde n'est pas en accord avec les prescriptions du Mahabharata, de la Bhagavad Gita et des lois de Manu. L'Inde ancienne a en fait pâti d'un climat de guerre perpétuelle qui a toujours profondément marqué de son empreinte le sous-continent indien. La guerre toujours recommencée, n'est-il pas ? La guerre passe d'ordinaire pour une montée aux extrêmes ayant un effet simplificateur, attendu qu'elle dresse face à face des puissances coalisées et regroupées en deux camps, c'est-à-dire qu'elle est censée opposer deux systèmes d'alliances, comme l'ont bien montré en Occident les deux guerres mondiales. Or, ce que l'Inde médiévale donne à connaître, c'est un effet exactement contraire, à savoir un effet consistant à disséminer la guerre à la faveur de l'atomisation des conflits, en même temps qu'un effet consistant à répandre la guerre par procuration. En définitive, dans le domaine des relations entre les polices comme dans celui des relations internationales de nos jours, sans doute est-il vrai que seuls les rapports de puissance et l'habileté des acteurs, dès lors qu'ils ont les moyens de leurs ambitions, déterminent la configuration des champs de force, sans oublier les tropismes géopolitiques qui reprennent toujours le dessus sur les alliances de circonstances. Mais s'il est une leçon à tirer du cas de l'Inde ancienne et médiévale, c'est que c'est finalement ce qui s'aperçoit moins, à savoir les facteurs culturels, les traits culturels informant l'éthos des acteurs, en l'espèce la prégnance de l'idéologie du monarque universel, Chakravartin, et la culture de la belligérance, la culture de l'opportunisme militaire ou l'aventurisme militaire, qui se révèle surdéterminant, véritablement décisive dans la répartition des rôles et le travail souterrain des tensions architectoniques à l'œuvre dans la décomposition et la reconfiguration des systèmes transpolitiques et des ensembles géopolitiques. Je vous remercie.